l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Et notre invité du matin, c'est le père Éric Simoneau qui était présent sur le territoire ces derniers mois comme aumônier renfort des gendarmes mobiles. Et avant son départ, il a fait le bilan de cette expérience au micro d'Elisabeth Noir.
Père Simoneau, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes l'aumônier des gendarmes mobiles actuellement en Nouvelle-Calédonie.
Alors oui, je suis aumônier de renfort, plus exactement pour renforcer cet afflux de gendarmes qui ont été appelés depuis la métropole. Vous savez qu'on a eu plus de 106 escadrons métropolitains. Il y en avait jusqu'à 37 qui ont été déployés pour les événements.
Vous allez nous raconter tout ça. Merci en attendant d'avoir accepté notre invitation. Vous vous apprêtez d'ailleurs à quitter la Nouvelle-Calédonie.
C'est vrai, à grand regret.
Alors justement, pourquoi vous êtes venu sur le territoire et en quoi consiste exactement votre mission d'aumônier en renfort de la gendarmerie mobile ?
En prévision de cet afflux et à la suite de cet afflux de gendarmes mobiles qu'elle est déployée, le commandant, là, le commandant gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, que vous connaissez, qui est un ami, a fait une demande à Paris, donc à la maison mère, pour avoir un aumônier supplémentaire. Parce que d'abord, l'aumônier qui était ici en poste, l'aumônier des FANC, des forces armées en Nouvelle-Calédonie, était sur le départ. Il y avait une mutation du suivant, et puis c'est 36 escadrons, 37 escadrons, vous multipliez par une 62, enfin, vous voyez un peu l'afflux de gens. Donc ces gens-là ont des âmes, ils ont besoin d'assister à la messe, de se confesser, de pratiquer les sacrements pour la plupart. Et donc il faut un aumônier en plus pour pouvoir subvenir à tous ces besoins.
Parce que c'est habituel que les gendarmes mobiles soient accompagnés d'un aumônier. On n'y pense pas forcément.
Alors pas vraiment, en ce sens que quand les gendarmes mobiles sont déployés, ils vont sur un territoire français, donc sur lequel il y a un maillage chrétien, mariage catholique, mariage cultuel existant. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin. Ils peuvent toujours pratiquer, puisque la liberté de culte est exercée dans les armées et en République française. Mais justement, avec cet afflux et puis cette compartimentalisation du territoire, ces barricades qui existaient, ces barrages, la libre circulation des personnels gendarmes n'était pas assurée. Et puis, les églises ont été, vous le savez, fermées pendant un bon moment.
Alors, comment est-ce qu'ils accueillent votre présence ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un aumônier ?
Alors, je dirais pas qu'ils accueillent ma présence, ils l'attendent en ce sens qu'ils ont l'habitude d'avoir un aumônier à la maison mère, enfin dans leur casernement, ils connaissent les aumôniers militaires. Et donc, déployés seuls, sans leur famille, au coup de sifflet bref, loin de beaucoup de choses, avec un décalage horaire énorme, ce sont des garçons qui sont pour la plupart jeunes, en bonne santé, qui veulent construire une vie. Alors, certains se préparent au mariage, d'autres ont des enfants, etc. Ce sont des gens qui veulent assister à la messe, se recueillir, se confesser, préparer un mariage. Il y a des préparations de première communion, j'ai fait du catéchisme et j'ai écouté beaucoup de confessions. Donc ils m'attendent.
Comment est-ce qu'on devient aumônier des gendarmes mobiles ?
Alors, je suis aumônier militaire à temps plein en métropole. Je suis sur la base navale de Cherbourg, plutôt avec ce qu'on appelle un ancrage marine. À côté, il y a un escadron de gendarmerie mobile à Cherbourg, Cherbourg-Octeville, qui a fait 3 mois aussi ici. On le devient d'abord, il faut être prêtre. Puis on est appelé par le diocèse aux armées, qui vous demande de rentrer dans leur rang, en quelque sorte. Voilà, il faut remplir un dossier, il y a une enquête, et puis, moi j'avais la chance d'avoir fait du service militaire, de parler français, etc. Maintenant, les jeunes se proposent, on a un séminaire aux armées, qui forme des aumôniers militaires, et il y a une formation plus militaire pour eux, puisqu'ils ont payé de ça. C'est ainsi qu'on le devient. Alors, de mobile en particulier, nous avons tous une attache interarmée, si on peut dire, enfin une qualification interarmée. Donc il y avait un appel d'offres, le général Mathéos a demandé à ce qu'un aumônier vienne renforcer l'existant, et donc on m'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion.
D'autant plus que vous aviez un avantage supplémentaire, vous connaissiez déjà la Nouvelle-Calédonie.
Mais comme vous le dites, en effet, j'avais eu la chance, quand j'étais jeune prêtre, d'avoir pour premier poste, j'étais résident en Australie. Et d'Australie, je devais m'occuper des missions du Pacifique, pour la petite congrégation à laquelle j'appartenais. C'est ainsi que je prenais l'avion de Melbourne, où j'habitais, puis je devais me rendre au Japon. Mais je m'arrêtais en Nouvelle-Calédonie pour un mois. Mon chef de tribu de la côte Est venait me chercher à la Tontuta, à la nuit tombée, ou tombante, plutôt. Et moi, j'aurais demandé à ce qu'il tourne sur la droite pour aller à Nouméa. Il me disait, non, c'est péché, c'est pécaminé. Et donc, on avait 2-3 heures de route pour arriver sur la côte Est. Je faisais des camps d'enfants. J'avais pratiqué la vie en tribu. En effet, il y a 40 ans maintenant.
Alors, justement, vous qui connaissiez bien la Calédonie, dans quel état est-ce que vous l'avez retrouvé après les violences insurrectionnelles du mois de mai ?
Je pense que c'est un état de guerre, un état de siège. et ça l'était d'une certaine façon. Mais quand j'ai tourné à droite, enfin pour la première fois en arrivant, quand on est venu me chercher à l'aéroport de la Tontuta, j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas, Nouméa, Lansvata, la baie des citrons, tout ce que mon chef de tribu reprochait. Et donc là, on n'avait pas l'impression que c'était différent. Les gens vivaient à peu près normalement. Il y avait le couvre-feu, on a connu le couvre-feu à 18h aussi. Mais dès qu'on voulait partir, et c'était la difficulté, c'était barrage après barrage. Bon, j'ai pas trouvé de pénurie dans les commerces parce que je fréquente pas trop ça, mais la circulation dans ces barrages était ralentie. On se regardait un peu en chien de faïence. Moi, soit j'étais en soutane, soit je mettais une écharpe pour me couvrir. Mais on avait très peur que je me fasse arrêter. J'étais seul. J'avais pas de gilet pare-balles, j'avais pas d'armes, c'était hors de question. Et donc, c'était un petit peu, d'angoisse, je dirais. C'était très, très émouvant et de voir Nouméa autour de Nouméa, donc ces voisins vigilants qui barricadaient, et puis ces lieux où tout avait été brûlé, ces routes qui avaient fondu, ces drapeaux qui flottaient dans tous les sens, je me suis dit, mais c'est drôle, c'est Beyrouth, d'une certaine façon. On passe de l'un à l'autre, vous savez, comme on passait à Beyrouth par le musée pour aller d'une zone à l'autre, un peu un état de siège, un peu un état de guerre. Ça m'a vraiment surpris.
Vous n'accompagnez pas les gendarmes mobiles sur leurs opérations? Vous n'êtes pas allé directement dans les endroits les plus chauds où ils devaient intervenir?
Alors, ce n'est pas le but, parce qu'on ne va pas rajouter du feu au feu. Je n'allais pas les gêner. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais j'étais très proche, parce que ça m'intéressait de voir la façon dont ils opèrent et où ils opèrent, pour partager, compatir à la difficulté de leur mission. Parce que c'est quand même très difficile. J'allais sur leur cantonnement. Donc c'est comme ça que ma mission m'a permis de visiter, pas au sens touristique, mais d'aller dans tous les endroits où ils se trouvaient pour accomplir mon apostolat. Et j'ai quand même demandé à ce qu'ils m'emmènent à certains endroits. Ils m'ont fait des descriptions. Je suis retourné par après, quand ça avait été libéré, sur les lieux où il y avait eu quelques combats, quelques échauffourées un peu dures.
Alors c'est le travail des gendarmes mobiles, hein, de rétablir l'ordre, d'être au contact comme ça avec des émeutiers ou des insurgés. Est-ce que c'est difficile pour eux, dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie? Dans quel état d'esprit vous les avez trouvés par rapport peut-être à d'autres endroits où ils sont appelés?
Les gendarmes mobiles sont habituellement utilisés sur le territoire français, de la République française, donc pas à l'étranger, pour maintenir l'ordre. Et ici, on était clairement, vos auditeurs le savent, on était clairement dans un degré supérieur. On était proche, on était dans le rétablissement de l'ordre, et je parle pour moi-même, mais c'est du rétablissement de l'ordre. Ils n'ont jamais connu ça, c'est une violence exceptionnelle, mais comme Jean vous l'a dit à ce micro, n'est-ce pas, ils ont quand même perdu deux de leurs camarades, et ça leur a fait un choc énorme. Ils le disent, on n'a jamais connu quelque chose d'aussi fort. C'était le taux d'emploi, la rotation, vous savez qu'ils ont tant d'heures sur leur point de travail. Ils se préparent, ils s'équipent, ils se lèvent tôt le matin, ils font les 3-8 en quelque sorte, mais le temps de trajet était pris sur le temps de repos, d'une certaine façon. Ils prenaient leurs consignes, ils faisaient leurs patrouilles ou leurs observations, leur maintien de l'ordre, leur établissement de l'ordre sur place. Ils revenaient complètement exténués. Et là, il fallait revenir, se laver, se doucher, manger, faire du sport, dormir, garder le contact avec la famille. Pour eux, c'était très exténuant.
Et dans ce cas-là, l'aumônier a un rôle aussi pour les réconforter, les apaiser, leur apporter autre chose que ce qu'ils vivent tous les jours?
Je leur offrais une oreille. Vous savez, de nos jours, il y a trois choses qu'on ne peut pas acheter, c'est l'espace, l'écoute et l'air pur. Mais moi, je leur offrais de l'écoute. Ils pouvaient, sans être jugés, se confier. Et j'étais ce qu'on appelle en anglais the sounding board, c'est-à-dire une oreille attentive et écoutante.
Un soutien moral aussi.
Soutien moral, exactement. Et puis des conseils, s'il le fallait, et des encouragements, et puis écouter leurs besoins, en effet, oui.
Vous, encore une fois, qui connaissiez la Calédonie avant, depuis 40 ans, comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, vous le dites vous-même, ça a été très fort, très violent, il y a eu un traumatisme chez les gendarmes mobiles, mais dans la population aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, je dois être honnête, comme tous vos auditeurs, j'aimais la Calédonie. Je regardais ce petit territoire de très loin. Quand j'étais ordonné prêtre, qu'on m'a dit que j'avais la Nouvelle-Calédonie, la Calédonie dans ma gamelle, j'ai sauté de joie. J'ai fait donc de 86, 87, 88, j'étais là en tribu, de façon épisodique. Je me suis fait tirer dessus, alors sur la case, de nuit, je n'emmenais pas large. Et mon chef de tribu le lendemain m'a dit « Non mais tu sais, ils savent pas tirer. » Et puis la maison est en tôle, et puis c'est du parpaing. Je dois dire que je n'étais plus revenu depuis, sauf pour les JMJ, après les JMJ en 2008. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. La situation était très tendue. Et j'ai du mal à l'expliquer, parce que sur les lieux de travail des gendarmes, ils me posent les questions, ils me disent « Mais comment ça se fait? C'est un territoire chrétien, ça a été christianisé, c'est la dernière de nos communautés, ils sont tous chrétiens. Comment est-ce qu'ils en arrivent à brûler les églises? Comment est-ce qu'ils en arrivent à brûler les presbytères ?» Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
De toute façon, cette dégradation des lieux de culte, c'est la première fois en Nouvelle-Calédonie. Au moins 5 églises ont été brûlées ou saccagées. Comment vous l'analysez ?
Alors, est-ce que c'était saccagé de sang-froid ou bien, je dirais, sous l'influence de l'alcool, de la drogue, dans des moments d'irrassure ? On voit bien les gens qui sont nés natifs, alors disons les nés natifs, mais ceux qui sont de temps immémorial, le peuple de la terre ici, aiment brûler sa terre. On le voit, il y a des brûlis, ça sent partout, c'est une façon de vivre. Est-ce qu'on s'amuse ? Est-ce que c'est un grand feu d'artifice ? Est-ce que c'est le grand jeu ? Je vois pas, ça c'est, je dirais ceci pour les disculper, mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Il me semble qu'une volonté, quand on s'attaque à des lieux, des dispensaires, des écoles, des lieux de diffusion du savoir et d'élévation spirituelle, morale et d'ascension dans l'échelle sociale, comme une volonté, une mauvaise volonté derrière, enfin une volonté pécamineuse, si on peut dire, une volonté perverse.
Et maintenant, comment est-ce que vous voyez la suite ? Vous pensez que la Calédonie a déjà connu une quasi-guerre civile il y a 40 ans ? Il y a eu une réconciliation de la population, une volonté de construire ensemble. C'est encore possible, à votre avis, aujourd'hui, après ce qui s'est passé ?
Alors, c'est vrai que la génération 40 ans avant, ceux qui ont construit ont 60 ans, ils ont mon âge, ça tourne. Ceux qui sont montés sur les barrages ou qui ont fait le coup de feu sont des jeunes qui n'ont pas connu les événements en 88, en quelque sorte. Quand je parle avec les gens qui nous entourent, ils me disent « Mais c'est fini, on ne pourra plus se réconcilier. » C'est cyclique. Et j'ai peur de ce côté cyclique. J'appréhende ce côté d'engrenage, de renouvellement. On a l'impression que l'histoire se réécrit, enfin se reproduit, rebalbutie, bégaye, on recommence. Et malheureusement, on a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas appris des erreurs de leurs anciens ou que les anciens n'ont pas réussi à endiguer leurs jeunes. Ça, c'est mon impression. J'ai un peu peur. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui s'engagent alors que, quelle est la foi ? Seul le bon Dieu connaît le profond de la pensée. Enfin, je ne sais pas. J'ai peur qu'on dise qu'il faut se réconcilier. Très bien, il faut se réconcilier. Mais la réconciliation passe aussi par des réparations. C'est-à-dire que celui qui casse, paie. On ne peut pas apporter de l'argent. On ne peut pas dire on fait comme si de rien n'était. On enterre l'âge de guerre, on fume le calumet de la paix. Et puis on recommence pour combien de temps ? Non, il faut que des choses soient tangibles. Ce n'est pas tout de planter une fleur, un arbre. Il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort, à mon avis.
Est-ce que la religion, le christianisme, le catholicisme peut participer à trouver une solution, à apaiser les choses ?
Alors en effet, parce que la terre de Nouvelle-Calédonie, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas, c'est quand même une terre qui a été missionnée. L'apport de la civilisation occidentale, de l'homme blanc, s'est fait par le christianisme, qu'il soit protestant ou catholique. Je parle à mon niveau, c'est quand même une terre chrétienne, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est la chose qui est en commun. Il y a quand même une union chrétienne calédonienne autour du Christ, le prince de la paix, celui qui a souffert, celui qui a été honni, celui qui a porté sa croix, celui dans lequel tout le monde croit ici normalement, qui est celui qui apporte la rédemption universelle, qui s'est réconcilié la nature humaine, le genre humain. À mon avis, tout avec cette reconstruction, on parle de cette reconstruction des monuments, des bâtiments, cet argent qui va être encore dépensé à flot, il faut qu'il y ait une rééducation, un redressement spirituel et moral. Non, il faut un redressement spirituel et moral de la Calédonie, par le christianisme, par les églises.
Et vous, Père Simoneau, c'est quoi la suite de votre mission maintenant ?
Je reprends mon poste tout à fait anodin à Cherbourg. Je suis l'aumônier de la base navale et de l'école des Fourriers à côté. Je vais prendre des permissions d'abord, parce que j'ai un bon nombre de permissions. J'étais 3 mois en mer, Saint-Pierre-Miquelon, Islande, février, mars, avril, Pâques, et avant le carême et après. Et puis quand j'étais en Écosse, donc en Calédonie, en vraie Calédonie, on me dit « tu pars en Estonie ». Donc j'étais en Estonie pendant mai-juin. Et en fin d'Estonie, on me dit « est-ce que vous acceptez d'aller en Calédonie ?» Donc je vais aller dans un désert me ressourcer. J'attends la prochaine mission, et puis si Dieu veut, je reviendrai, si on m'en rappelle.
Merci, madame, merci d'avoir accepté cette invitation.
Je vous en prie, Elisabeth, tout le plaisir était pour moi aussi. Merci à vos auditeurs.